Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce tour de piste du mardi 3 novembre 2015. Je vous invite à un voyage d'une durée de 30 minutes nous permettant de survoler l'actualité des derniers jours. Voici donc notre plan de vol pour aujourd'hui. Nous parlerons de la CAQ qui s'attaque à l'incompétence dans la fonction publique, du Brésil qui officialise une union civile polyamoureuse entre trois femmes, des leaders religieux qui demandent la liberté de conscience pour les médecins, de deux chrétiens qui sont condamnés pour avoir partagé un dépliant racontant le témoignage d'un ex-homosexuel et des 40% de Français qui seraient tentés par un gouvernement autoritaire. En rafale, il sera question des femmes qui veulent le retour du mâle, des salutations acceptables, pourquoi souhaiter joyeux Halloween et ne pas souhaiter joyeux Noël, et d'un grand colloque consacré aux intérêts du Québec. Mesdames et messieurs, attachez bien votre ceinture, votre tour de piste débute à l'instant. Avant de procéder à nos manœuvres de décollage, je vous invite à visiter le www.ericlantier.net. Le www.ericlantier.net. Vous y trouverez la majorité de mes interventions publiques, écrites ou parlées. Je vous invite également à m'écrire via le courriel à leblogueur@ericlantier.net. C'est leblogueur@ericlantier.net. Mesdames et messieurs, débutons avec cette nouvelle. La CAQ s'attaque à l'incompétence dans la fonction publique. C'est ce que nous révèle Le Devoir. Effectivement, Le Devoir nous dit que la coalition Avenir Québec veut sanctionner la culture d'incompétence dans la fonction publique. Le député caquiste Éric Kerr croit que les fonctionnaires et leurs supérieurs doivent être soumis à des mécanismes d'évaluation dans leurs résultats. Effectivement, c'est important ça. On doit, en tant qu'État, en tant que gouvernement, s'assurer que les fonctionnaires, ceux qui travaillent pour la fonction publique, ceux qui sont payés par le fonds des contribuables, par nos impôts, par nos taxes, eh bien, qu'ils puissent être compétents et atteindre les objectifs qu'on s'attend d'eux, qu'ils puissent amener des résultats, qu'ils puissent amener les réformes pour faire des économies et s'assurer que le système de santé, le système d'éducation et tout ce qui est généré par l'État puisse être efficace, puisse avoir du rendement, qu'on puisse n'avoir pour notre argent. Ce n'est pas tout d'engager les gens pour faire rouler l'économie. Il faut s'assurer que notre investissement est rentable. Il faut s'assurer que ce qu'on dépense justement en santé, mais ça amène des soins de qualité, ça amène justement un temps d'attente moins grand. Et pour ça, je salue l'initiative de la CAQ et j'appuie abondamment cette manière de voir les choses. Dans une toute autre ordre d'idées, si on veut, on va passer maintenant au Brésil. Eh bien, il y a quelque chose d'assez surprenant. Ben, dans le fond, je ne suis pas si surpris que ça, mais quand même, certains parmi vous, chers auditeurs, il y en a qui vont être surpris. Savez-vous ce qui se passe au Brésil? Eh bien, on parle d'une union civile polyamoureuse entre trois femmes. Eh oui, et voici ce que TVA Nouvelles nous rapporte. Je cite, « Elles sont trois, partagent le même lit et veulent avoir un enfant. » Ce trio de femmes amoureuses vient d'officialiser leur union polyaffective au Brésil, défiant la famille traditionnelle dans ce pays très religieux, mais où la sexualité se vit sans complexe. Tandis que les députés conservateurs luttent pour imposer un modèle de famille unique, homme-femme, une femme d'affaires de 32 ans, une dentiste du même âge et une gérante administrative de 34 ans, ont légalisé leur relation de 3 ans devant la notaire Fernanda de Freitas Letao au début d'octobre à Rio. Elles ne sont pas mariées car la loi brésilienne ne reconnaît pas la polygamie. Elles forment une famille. Cette union n'est pas seulement symbolique, elle est réelle et a déjà des effets. Écoutez, mesdames et messieurs, j'en ai parlé, j'ai même écrit un article sur la polygamie et... je suis certain qu'il y a des lecteurs qui ont lu l'article et ont dit « Ah, il va trop loin, lui, Lantier, voyons donc. Hey, » c'est complètement futuriste. Mais voyez-vous, on a déjà ouvert la porte au Brésil. Trois femmes sont reconnues officiellement comme étant unies civilement. Alors, écoutez, on entre dans une société qui va devenir de plus en plus complexe et qui va s'éloigner des valeurs judéo-chrétiennes. Et même si le Parti conservateur du Brésil tente de conserver justement la définition du mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme, eh bien, on voit que ces fondements mêmes de notre société sont en train de s'écrouler. Et c'est pour ça que c'est important de se pencher sur ces questions-là et de réaliser, écoutez, s'il y a un grand nombre de divorces entre deux personnes qui se marient dans les meilleures intentions du monde, qui s'unissent en disant « Je vais être avec toi jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Imaginez si c'est difficile, après 5, 10, 15, 20 ans de mariage, de rester fidèle, pour beaucoup d'entre eux, et qu'est-ce que ça va être à 3? On complexifie la cellule familiale. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des couples ou est-ce que vous êtes un couple qui, parfois, vous n'êtes pas d'accord sur la façon de réagir envers vos enfants? Par exemple, les conséquences, par exemple, les privilèges, etc. Imaginez à 3. Imaginez à 4. Écoutez, mesdames et messieurs, avant de passer des lois pour dire qu'on est ouvert et qu'on veut le progrès, on ne pourrait pas justement étudier, on ne pourrait pas se pencher sur la question davantage. On ne pourrait pas voir est-ce que les couples qui vivent des difficultés, qu'on puisse leur accorder justement des moyens, du soutien pour qu'ils puissent persévérer puis pour qu'on ait des familles plus unies. Avant d'ouvrir à différents modèles alternatifs, est-ce qu'on ne pourrait pas consolider le modèle de base? Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, c'est la réflexion que je vous lance. Est-ce que vous êtes pour la polyandrie ou la polygamie? Eh bien, mesdames et messieurs, vous pourrez en discuter ce soir au souper devant un bon repas. Et dans un autre sujet j'aimerais aborder avec vous, eh bien, celui des leaders religieux qui demandent la liberté de conscience pour les médecins. Encore une fois, c'est Le Devoir qui publie cet article-là, mais j'ai tiré l'information d'un article du Devoir. Et qu'est-ce que nous dit Le Devoir? Eh bien, la Cour suprême a invalidé en février dernier des dispositions du Code criminel interdisant l'aide à mourir et a donné un an à Ottawa pour s'y conformer. Donc, le journal Le Devoir nous rappelait la semaine dernière que des leaders religieux se sont réunis pour obtenir du gouvernement la garantie qu'aucun médecin ne sera obligé d'offrir l'aide médicale à mourir si cela heurte sa conscience. Ceux-ci veulent s'assurer également qu'ils ne seront pas obligés de référer un patient à un collègue qui la pratique. Alors, c'est clair, hein? Et pour moi, je l'ai toujours dit, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je l'ai dit dans mes articles, je l'ai dit vocalement sur la place publique, je prône la liberté de conscience. Moi, je crois, par exemple, qu'en Chambre, nos représentants, nos élus, devraient avoir un droit de retrait lorsque leur conscience est heurtée. La même chose pour les médecins, la même chose pour les enseignants, la même chose pour les employés de l'État. Lorsque leur conscience est affectée, il doit y avoir un mécanisme légal qui protège les gens qui disent « Non, je ne peux pas aller au-delà de ma conscience. » Ce qu'il y a de plus précieux chez l'être humain, ce qui nous différencie des animaux, c'est justement ce droit d'être fidèle à ce que notre conscience nous dicte. C'est fondamental pour moi. Et si quelqu'un a de la difficulté, si un médecin se sent mal de tuer un patient, de lui donner la mort, même s'il la réclame, eh bien, il doit avoir un droit de se retirer. Et pourquoi de pas obliger qu'il puisse le référer à un autre collègue? Bien, c'est parce que si le médecin veut se retirer en disant « Non, je ne suis pas capable de donner la mort à cette personne-là qui est en fin de vie », eh bien, en la référant à un autre médecin, dans sa conscience, il ne sera pas plus en paix. Il va avoir contribué, même si ce n'est pas lui, mais il va avoir quand même contribué à donner la mort à cette personne-là. Donc, à ce moment-là, cette liberté devrait être intégrée dans la loi. Et c'est ce qu'on espère. Moi, je suis d'accord avec ce groupe de gens qui réclament, disons, ces alinéas, qui réclament ces amendements à la future loi. Les représentants religieux demandent également que les soins palliatifs fassent partie des services offerts à tous les Canadiens. Écoutez bien ce que nous cite le journal Le Devoir. Selon le rabbin Bulka, le droit de choisir nécessite qu'il y ait un véritable choix. Ce qui arrive en ce moment, c'est que les soins palliatifs ne sont pas toujours adéquats. On n'a pas justement le financement nécessaire, on n'a pas l'organisation nécessaire, on n'a pas le personnel nécessaire. Et puis à ce moment-là, ça fait en sorte que ça favorise l'aide médicale à mourir. Et s'il y avait des soins palliatifs plus performants, eh bien, et là, je ne remets pas en cause le personnel de la santé, parce que le personnel de la santé se donne à plat ventre. Moi, je parle d'une organisation. C'est pour ça que je reviens souvent sur le fait qu'on doit enlever de l'argent qu'on investit dans les structures, puis investir cet argent-là dans les soins directs aux patients. C'est là que ça doit aller. Qu'est-ce que dit, lui, pour sa part, le rabbin Reuven Bulka? Il va dire quelque chose d'autre. Il va dire, aucun d'entre nous ne veut imposer ses valeurs religieuses aux Canadiens. Il est bien clair là-dessus. Mais voici la nuance qu'il apporte. Mais il ne faudrait pas en retour que les médecins se fassent, eux, imposer des valeurs qu'ils ne partagent pas. Donc, ce rabbin-là estime que cette crainte n'est pas théorique, puisque le scénario s'est produit en Ontario où les médecins opposés à l'avortement sont obligés de diriger les patientes désireuses d'interrompre leur grossesse vers des cliniques offrant ce service. Alors, c'est pourquoi que M. Bruce Clemenger, le porte-parole du groupe EFC, a envoyé un communiqué de presse, dis-je, et dans ce communiqué de presse, voici ce qu'il nous révèle. Notre société a une longue histoire juridique d'affirmer sans ambiguïté le caractère sacré de la vie humaine. La Cour a jugé que, dans certaines circonstances, la mise à mort d'une personne sera légale. L'euthanasie est venue au Canada. En incluant l'administration de médicaments dans sa définition de la mort médicalement assistée, la Cour a décriminalisé non seulement le suicide assisté, défini comme une personne qui se donne la mort, mais aussi l'euthanasie volontaire dans laquelle les professionnels médicaux donnent eux-mêmes la mort. Et donc, ça inquiète le groupe EFC, Evangelical Fellowship of Canada, donc l'Alliance évangélique du Canada. Le devoir, eux, si je reviens au devoir, ce qu'ils nous rapportent, c'est que les communautés religieuses ont fini par reconnaître que l'élection de Justin Trudeau les inquiète. Et donc, effectivement, parce que M. Trudeau s'est quand même prononcé comme étant philosophiquement pro-choix. Il a interdit ses députés et candidats d'être pro-vie. Et donc, ça les inquiète par rapport à l'euthanasie. Et dans un autre ordre d'idée, eh bien, j'aimerais vous parler de deux chrétiens qui sont condamnés pour avoir partagé un dépliant qui racontait le témoignage d'un ex-homosexuel. Donc, il y avait une personne qui pratiquait l'homosexualité, puis qui, à un moment donné, a cessé cette pratique-là et elle explique son parcours, son cheminement. Et effectivement, deux chrétiens, c'est en France que ça se passe, deux chrétiens sont condamnés pour provocation à la discrimination à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur orientation ou de leur identité sexuelle. Écoutez, quand moi, là, que j'intervenais sur la place publique, dans les médias sociaux, par des articles et sur différentes stations de radio, dont celle-ci, WCHP, écoutez, quand j'exprimais qu'on doit garder cette liberté d'expression, et quand j'expliquais aux gens qui me questionnaient que cette liberté d'expression-là, elle est fragile, elle pèse seulement d'un côté, on peut décrier, par exemple, n'importe quelle religion, n'importe quel groupe religieux, on peut même se moquer des groupes religieux, mais lorsqu'il est question de raconter le témoignage d'une personne, d'un ex-homosexuel, eh bien là, ça génère une poursuite en cours. Et là, on ne parle pas dans un pays lointain en voie de développement. Là. On parle d'en France. On parle juste d'un pays qui fait partie de l'Occident. Effectivement, deux chrétiens sont condamnés pour provocation à la discrimination à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur orientation, de leur identité sexuelle. Les deux chrétiens sont condamnés à payer ensemble 1500 euros à l'association ADEOS, qui s'était constitué partie civile et qui lutte contre l'homophobie, 1000 euros, mesdames et messieurs, pour frais de justice, puis les frais de parution du délibéré dans la presse. Cela a sorti d'une amende de 2000 euros pour l'un et de 1000 pour le deuxième. Écoutez, maintenant, pour moi, qu'on insulte des gens qui pratiquent l'homosexualité, je trouve que ça n'a pas sa place. Qu'on se moque de ceux qui pratiquent l'homosexualité, ça n'a pas sa place. Mais qu'on exprime notre malaise, qu'on exprime notre inconfort, ou qu'on rende, comme dans ce cas-ci, simplement un témoignage d'une personne qui a voulu se livrer publiquement, pourquoi? Pourquoi ces gens sont repris, sont pénalisés, et on leur donne de payer des amendes et des frais? Elle est où la liberté d'expression? Puis elle est où l'équité? Et moi, je veux justement utiliser toutes les plateformes nécessaires, non pas pour lutter contre l'homosexualité, mais pour lutter en faveur de la liberté réelle d'expression. Dans une société, il est important qu'on puisse débattre sainement, sereinement et qu'on puisse exprimer ce qu'on pense et ce qu'on croit. Et je crois qu'on doit le faire en tout respect, d'une manière modérée, mais intellectuellement, c'est nécessaire si on veut faire progresser la société. Mais le courant de pensée qu'on entend de plus en plus dans les médias, autant dans les médias traditionnels plus particulièrement, eh bien, c'est que ceux qui ont une vision, une voix chrétienne, eh bien, ont de moins en moins d'espace et sont bâillonnés. Et même, on ne parle même plus ici de moins d'espace. On les sanctionne, on les culpabilise, on les poursuit. Écoutez, moi, je pensais qu'ici, en Occident, c'était un de nos joyaux les plus précieux, la liberté d'expression. Mais ça a l'air que ça fonctionne seulement d'un côté et non pas de l'autre. Que voulez-vous, comme dirait quelqu'un que j'ai déjà entendu dire cette expression? Alors, un autre sujet que j'aimerais aborder, ce sont les 40% de Français qui seraient tentés par un gouvernement autoritaire. Mais oui, c'est le Figaro, figaro.fr, qui nous rapporte cette nouvelle qui est parue aujourd'hui, le 3 novembre. Selon un sondage IFOP pour le site Atlantico, publié lundi, 40% d'entre eux, en parlant des Français, là, se disent favorables à un régime autoritaire. Les deux tiers des personnes interrogées seraient également prêts à confier les rênes du pays, à des technocrates, car selon eux, des experts non élus pourraient réaliser les réformes nécessaires mais impopulaires. Cette logique de fond existe depuis un moment, mais s'amplifie, écrit Jérôme Fourquet, le directeur du département et de l'opinion publique de l'IFOP. C'est ce que nous rapportait le Figaro. Et ce qu'il dit également dans cet article, c'est que ces chiffres ne disent pas en creux qu'il y a une appétence pour le fascisme, mais plutôt qu'il y a une insatisfaction très profonde vis-à-vis du fonctionnement de notre système politique et des résultats qui sont obtenus, souligne Jérôme Fourquet. Le regard qu'on apporte sur les responsables politiques est très dévalorisé, alors on cherche autre chose. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est que les gens sont désabusés parce que les politiciens, ils promettent des choses, mais à un moment donné, il y a des manifestations, donc ils reculent, ils n'arrivent pas au bout de leurs idées. Il n'y a pas des réels changements, puis c'est toujours d'essayer de faire plaisir au plus grand nombre. Et à ce moment-là, ce qu'on dit, c'est que les deux tiers des Français seraient prêts à ce qu'il y ait des technocrates qui sont engagés pour une mission particulière, amener ces changements, les amener à fond. Ils ne sont pas élus, ils sont engagés pour le faire. Et donc, ou 40%, eux autres, un plus petit chiffre, diraient, on va élire un gouvernement, mais qui est vraiment prêt à trancher puis à amener ses réformes à bout. Alors, ça démontre juste qu'il y a un ras-le-bol de la population de payer, puis de ne pas avoir de résultats, puis de tourner en rond, puis de voir est-ce que le réel progrès prend tellement de temps à s'instaurer. Et c'est comme ça que ça se vit en France. Laissez-moi vous parler d'un autre sujet qui a été soulevé par le Figaro et ça concerne nos voisins du Sud. Oui, un article de Roland Goron. Et essayez de pratiquer ça. Roland Goron. Alors ça, c'est comme les chemises de l'archiduchesse. Alors, un article de Roland Goron qui titre son papier comme suit. Pourquoi la moralité augmente chez les Blancs d'âge moyen aux États-Unis? Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Depuis 15 ans, cette hausse touche surtout les populations défavorisées. Une hécatombe comparable au nombre de morts liées à l'épidémie du sida depuis l'apparition de la maladie dans les années 80. Donc, on compare cette augmentation de morts d'hommes et de femmes de race blanche à l'épidémie de sida qu'il y a eu il y a un peu plus de 30 ans. Qu'est-ce qu'il nous raconte, c'est que depuis 1999, le taux de mortalité chez les Blancs âgés de 45 à 55 ans, je suis dans cette catégorie-là, a augmenté de 0,5% chaque année. Chaque année, mesdames et messieurs. En cause, abus d'alcool, drogue et suicide. Les économistes à l'origine de cette vaste enquête expliquent que l'accès aux opiacés s'est démocratisé depuis la fin des années 90. Écoutez, on veut ici démocratiser la marijuana. Et puis ça, c'est juste une porte d'entrée. Et là, on est déjà rendu dans d'autres pays, comme aux États-Unis, à démocratiser. Je ne dis pas que c'est légal, là, mais donc c'est de plus en plus accessible parce que, justement, on banalise la consommation de drogue. Mais qu'est-ce que l'article dit par la suite? Il dit de 2002 à 2013, la consommation d'héroïne a bondi de 63%. Les décès liés à cette drogue ont même quadruplé sur cette dernière année. Les personnes qui ont essayé pour la première fois l'héroïne au cours de la dernière décennie sont à 90 % des Blancs. Le pourcentage de décès liés à la drogue et à l'alcool a quadruplé chez ceux qui disposent d'un baccalauréat ou moins. Les suicides, eux, ont bondi de 81 %. Les moins diplômés ont payé un lourd tribut au ralentissement économique. Or, le stress lié à ces difficultés économiques a joué un rôle, précisent les chercheurs. Et donc, c'est préoccupant. C'est préoccupant parce que la drogue, l'alcool, le suicide devient une issue. Et ça démontre qu'on est dans une culture, on est en train de générer une culture de mort, une culture qui, justement... Et comment se fait-il que ce sont les Blancs qui sont le plus touchés? Bien, il y a plusieurs hypothèses. L'article en soulève une. Il soulève que, par exemple, les gens issus de l'immigration ont appris à vivre dans la pauvreté, ont appris à vivre dans l'adversité. Mais moi, je crois aussi qu'il y a une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration qui se reposent sur Dieu, qui mettent leur espoir en Dieu et que l'économie, oui, c'est important, mais ce n'est pas le seul facteur qui les rend heureux. Et dès qu'on a vu que... Et comment c'est arrivé ça? Mais dès qu'il y a eu des problèmes économiques pour cette catégorie de personnes, les gens de race blanche américaine, eh bien là, il y a eu un déclin dans leur personne. Ils se sont tournés vers l'alcool, les drogues, et même pour beaucoup d'entre eux qui sont décédés, eh bien, ça a été le suicide qui a été la solution. Et ça, c'est malheureux. Et c'est pour ça que moi, je crois qu'on doit protéger justement nos valeurs judéo-chrétiennes, protéger notre patrimoine pour pouvoir avoir une société qui vit en sécurité, qui vit sainement avec des valeurs profondes, des valeurs éprouvées, qui ont été éprouvées depuis plus de 2000 ans. Eh bien, c'est important, avant d'amener des changements sociaux, de démocratiser, par exemple, la consommation de cannabis, de démocratiser des modes de vie, il faut s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction et le faire avec extrêmement de prudence et même, dans certains cas, de dire non. De dire non, on n'opte pas pour ce changement social-là parce que ça va avoir des conséquences, des répercussions à plus ou moins long terme. En rafale, puisque le temps file et le vent souffle, il sera question des femmes qui veulent le retour des mâles. Alors, je vous invite à lire cet article sur Le Figaro dans la section madame.lefigaro.fr/société. Alors, vous avez, cet article est titré comme suit, « Des femmes veulent le retour des mâles ». Et donc, avec la désexualisation des genres, cet article démontre que la propagande du lobby LGBT, lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, c'est un lobby qui met beaucoup de pression sur les politiciens, sur les décideurs de ce monde. Et eux veulent justement désexualiser les genres. Ils ne veulent plus qu'on parle d'hommes ou de femmes, mais d'être humain. Et donc, à ce moment-là, un homme qui se pense femme peut être considéré comme une femme, même s'il n'a pas changé de sexe. Et donc, à ce moment-là, on est en train de tout, comment je pourrais dire, tout désynchroniser la structure sociale de l'humanité. Mais bon, il y en a qui ne le voient pas comme ça. Et pour moi, ça m'embarrasse quelque peu parce qu'on a été créé homme. On a été créé femme, et bien à ce moment-là, on doit apprendre à vivre avec notre sexualité. Maintenant, s'il y a des gens qui, eux, pensent autrement, moi, je crois à la liberté d'expression, ils peuvent le dire, mais qu'on n'impose pas à toute une société cette propagande. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, eh bien, on ne se soumet pas trop à cette vague ou à cette propagande parce que les femmes, veulent le retour du mâle. Vous lirez cet article, c'est intéressant. Un autre sujet que je veux traiter en rafale parce que je veux vous inviter à le lire, je vais publier cette semaine sur ericlantier.net, www.ericlantier.net, eh bien, un article qui va s'intituler comme suit « Pourquoi souhaiter joyeux Halloween et ne pas souhaiter joyeux Noël? » C'est intéressant hein, parce que il n'y a personne qui va réprimander un commerçant ou par exemple un caissier ou une caissière. Vous allez dans un magasin, par exemple, vous achetez du linge, vous achetez un article, quoi que ce soit, et le caissier ou la caissière vous dit « Bon, ben joyeux Halloween! » Parce que l'Halloween arrive en fin de semaine, ça a eu lieu en fin de semaine dernière. Mais par contre, il va y avoir un malaise de souhaiter aux gens « Joyeux Noël ». Alors, pourquoi ça? Alors, pourquoi il y a un deux poids, deux mesures? Alors, je vous invite à lire cet article que je vais publier sur ericlantier.net cette semaine. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a un grand colloque qui est consacré aux intérêts du Québec le 7 novembre prochain. C'est un article qui est publié sur le Journal de Montréal qui a été signé de la main de Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce Mathieu Bock-Côté? Il dit que les intérêts du Québec étaient absents de la dernière campagne fédérale. Et il va mentionner que, justement, le Québec a été traité comme une province parmi tant d'autres. Et donc, c'est pourquoi le 7 novembre prochain à Montréal, à l'Hôtel des gouverneurs de la Place du Puy, l'Institut de recherche sur le Québec, auquel M. Bock-Côté est intimement associé depuis plusieurs années, va organiser son grand colloque annuel autour des intérêts du Québec. Et puis, l'objectif, c'est de repérer les intérêts du Québec au fil du temps et voir comment ils évoluent. Alors, je trouve ça intéressant parce que les intérêts du Québec, ça touche pas seulement les indépendantistes, ceux qui veulent séparer le Québec du Canada, de faire du Québec un pays indépendant, un pays souverain. Je crois que les intérêts du Québec, ça doit toucher tous les Québécois parce qu'il y a des Québécois francophones qui, eux, veulent demeurer dans le Canada. Moi, j'étais auparavant un souverainiste et je suis devenu fédéraliste. Pourquoi? Parce que, justement, je trouve qu'à l'intérieur du Canada, j'ai plus d'espace et plus de liberté d'exprimer mes opinions, d'exprimer ma foi, de pouvoir vivre selon les valeurs qui m'intéressent, de pouvoir vivre selon ma conscience. Et qu'au Québec, on veut rétrécir de plus en plus ce droit de parole, ce droit de liberté. On l'a vu au printemps avec la CAQ et le Parti québécois, avec la motion qu'ils ont présentée à l'Assemblée nationale. Mais là, je vois le temps filer et on doit se quitter dans quelques instants. Et avant qu'on se quitte, je vous invite à visiter ma page personnelle, le www.ericlantier.net, où vous trouverez les liens qui vous dirigeront vers les réseaux sociaux sur lesquels je m'exprime, ainsi que les conférences que j'anime et les articles que je publie. Comme je l'ai mentionné, mon dernier article s'intitule « Joyeux Halloween » ou « Joyeux Noël, deux poids, deux mesures ». Alors, sur ericlantier.net, vous trouverez également mes nouvelles chroniques quotidiennes, « Le Tour d'horizon », qui sont diffusées sur le 92,7 FM du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05. Donc, la bande sonore est affichée sur ma page. Si vous voulez continuer à discuter avec moi, vous m'avez entendu aujourd'hui ou vous m'avez entendu préalablement, alors je vous invite à m'écrire à leblogueur@ericlantier.net, leblogueur@ericlantier.net. En terminant, je vous invite le mardi 10 novembre à 14h30 sur les ondes du 760 AM pour un autre tour de piste. À la semaine prochaine!